Qu'est-ce que c'est que cet oxygène que le bon Dieu va nous donner? C'est des miracles qui, depuis 2000 ans, ne sont que pour sauver les âmes, qui sont des miracles de miséricorde et de bonté, et non plus seulement des miracles pour affirmer l'existence et la puissance de Dieu. Pas seulement. Et même si, bien sûr, dans l'Ancien Testament, vous avez les miracles justement d'Élie et d'Élisée qui sont très touchants. Vous avez des visions qui sont très belles. Et vous avez les prières de Salomon et de David. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Au cœur même de la religion juive, Zacharie, qui est prêtre, présente le parfum et l'archange Gabriel lui apparaît. Et il lui dit, voilà, tu vas avoir un fils. Et ce fils va annoncer le Messie tant attendu par ton peuple. Et lui, il a 80 ans. Comme Abraham. Et pourtant, il devrait quand même connaître aussi la mère de Samuel, du prophète Samuel du temps de David, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lui, qui connaît bien l'histoire de son peuple, doute. J'ai 80 ans, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de voir un ange dans le sein des saints, enfin, devant le sein des saints. Et il doute. Mais il doute vraiment. C'est fou. Et là, l'archange Gabriel lui dit, comment? Je suis un des sept esprits, toujours devant le trône de Dieu. Et tu mets ma parole en doute? Tu seras muet jusqu'à la naissance de cet enfant. Et encore un peu dans l'Ancien Testament. Hein. Donc il est là, et il sort sur le parvis. Et alors, Zacharie, comment vas-tu? Tout ça, amen, alléluia, nous devons prier pour le sacrifice du soir. Il est muet. Il retourne chez lui, il est muet. Près de Jérusalem, il est dans une ville qui, je crois, s'appelle Enkarem. Bon. Et les gens se disent, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça faisait près de 150 ans qu'il n'y avait pas eu, ou 200 ans, qu'il n'y avait pas eu de fait miraculeux dans l'histoire juive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y avait pas eu de prophète depuis 200 ans. Ça fait bizarre hein, pour une histoire prophétique et miraculeuse comme celle du peuple juif. Donc, d'ailleurs, ça donne une véracité incroyable à tout le reste. Il n'y a rien eu pendant 200 ans. Pas d'ange, pas de prophète. D'ailleurs. Le dernier, le petit prophète Malachi, qui disait justement « Mais ne pleurez pas parce que ce temple verra le Messie. » Et là, au bout de 6 mois de... Alors, mais Élisabeth, son épouse, tombe enceinte. Elle était stérile, c'était un couple très aimant. Et elle se retrouve enceinte à 80 ans quand même. Hein, donc, pouf. Et moi, le record à la paroisse, c'est une dame qui avait 50 ans. Hein, 49 ans, elle est pour son 10e enfant. Et la grossesse s'est très bien passée, l'enfant est en très bonne santé. Et donc, au bout de 6 mois, vous avez l'archange Gabriel, alors là, qui prend son souffle, parce qu'il va apparaître à une jeune femme qui avait été présentée à un fiancé. Donc, il y avait eu un mariage arrangé. La famille de Marie et la famille de Joseph. La Vierge Marie, elle, était née d'un miracle, parce que Anne et Joachim n'avaient pas d'enfants. Et voilà que Anne tombe enceinte alors qu'elle a plus de 70 ans. Et elle consacre sa petite fille, Marie, au temple. Elle la présente au prêtre parce qu'elle est de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda par ses ascendants. Et elle la confie au temple vers l'âge de 3 ans. pour qu'elle y soit éduquée et, comment dire, dans la prière. Et la Vierge Marie, qui grandit, demande à ne pas se marier et à vivre dans la prière. Alors, à l'époque encore, on doit respecter la fécondité du peuple juif, et donc tout le monde doit se marier, tout le monde doit avoir des enfants. Il n'y a pas de vie religieuse véritablement. Quelques prophètes ont vécu solitaires, mais même beaucoup de prophètes étaient mariés. Donc la demande de la Vierge Marie est acceptée, mais on lui dit il faut quand même que tu sois marié. Alors, on cherche un homme qui respectera son vœu. Et on tombe sur Joseph, qui lui était un saint homme. Il y a deux traditions pour Joseph, hein, où lui était veuf, figurez-vous, je ne sais pas si vous connaissiez cette tradition-là, où il était un saint homme qui ne s'était pas encore marié, mais il était plus âgé que la Vierge Marie. Il devait avoir une trentaine d'années et la Vierge Marie avait 16 ans. Et donc, la première étape du mariage est faite, mais cette première étape est engageante. Ce sont des fiançailles mariage. Attention, c'est scellé. Hein? Tant de vaches, tant de moutons et tout ça. Hein? Mais là, pour le coup, comme ils sont tous les deux très modestes, le contrat de mariage n'est pas très lourd, la dot n'est pas extraordinaire. Et au bout de 6 mois de la grossesse d'Élisabeth, qui était une cousine hein, de sang, mais une cousine à la mode de Bretagne, hein, il y a 80 ans, elle en avait 16, et voilà que l'archange Gabriel arrive auprès de Marie. Et alors lui, il est tout petit, parce que la Vierge Marie est immaculée dans sa conception, c'est-à-dire qu'elle a l'état de grâce dès son existence. Dieu habite en elle dès sa conception par son papa et sa maman, dans le ventre de la mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, pour que nous soyons en état de grâce et que Dieu habite en nous, il faut qu'on soit justifié. Si on n'est pas plongé dans l'eau du baptême, on doit attendre notre premier acte de conscience, quand on choisit entre le bien et le mal. Et là, on est justifié de l'absence de grâce dans l'âme humaine. Donc, tous ceux qui ne sont pas baptisés, n'est-ce pas, au moment de, vers 5 ans, entre 4 et 7 ans, leur premier acte de bonté peut les justifier et appeler la présence de Dieu dans l'âme. Alors, on baptise les adultes, les enfants, les grands-enfants, ou les enfants qui ont l'âge de raison et les adultes pour confirmer leur foi dans l'existence et l'amour de Dieu. Mais ils sont peut-être déjà en état de grâce, dans leur désir qu'ils ont de la présence de Dieu dans leur âme. Mais ceux qui n'ont pas l'âge de raison, on leur impose cette grâce, on la leur donne. Et leur volonté et leur liberté ne peuvent s'y opposer. C'est la raison pour laquelle vous avez, en vous mariant, le devoir de faire baptiser vos enfants bébés pour qu'ils aient tout de suite cette grâce qui va les aider à choisir le bien lorsqu'ils seront. Ils auront l'âge de raison. Alors, cette apparition est toute délicate parce que l'archange Gabriel a plus de respect pour Marie que Marie n'en a pour l'ange. Parce que l'archange Gabriel sait qui est Marie. Elle a l'Immaculée Conception et elle va être la mère du Sauveur. Mais seulement l'archange Gabriel sait qu'il sera Dieu. Tandis que le peuple juif, pour l'instant, ils ont quelques prophéties d'Ézéchiel, de Daniel, où on voit une apparence d'homme dans la gloire divine. Mais personne n'ose imaginer que c'est Dieu, c'est que c'est la gloire et la lumière du Sauveur, du Messie. Et bien là, qu'est-ce qu'il propose? Il lui dit, « Je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Et là, Marie, pleine de grâce. Qu'est-ce que ça signifie? Pour elle, qui est toute humble, qui est une femme très, très droite, et qui ne se prend pas pour une sainte, parce qu'on n'est jamais conscient de sa sainteté lorsqu'on est saint. Vous allez être la mère du Sauveur. Le fils du roi David va venir par vous. Et il sera la providence du peuple et le salut du peuple. Et là, la Vierge Marie, elle est très consciente de ce qui se passe. Le Sauveur, le Messie tant attendu. Vous voyez, les Juifs autour, ici, avec les 5-6 synagogues qui sont autour de nous, le Meshiah arrive, le Meshiah arrive, le Meshiah arrive. On est en 1948, on est revenu sur la Terre Sainte, le Messie va arriver bientôt. Et donc, elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Puisque je me suis consacrée à Dieu, elle renonce à être la mère du Messie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle dit, mais moi, je ne poserai pas l'acte sexuel avec mon époux. Comment vais-je avoir un enfant? Je me suis donné à Dieu. Imaginez l'objection de la Vierge Marie pour l'archange Gabriel. Alors là, il reprend son souffle et il dit « L'Esprit Saint vous couvrira de son ombre et l'être saint qui naîtra de vous sera appelé fils de Dieu. » Et pour vous prouver cela, votre cousine Élisabeth est à son 6e mois. Elle qui était stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors la Vierge Marie dit, qu'il me soit fait selon votre parole. Fiat mihi secundum verbum tuum. C'est ce qu'on appelle le fiat, qu'il me soit fait. Et là, l'archange Gabriel se retire, et vous avez le bon Dieu qui féconde le ventre de la Vierge Marie. Du plus pur sang de la Vierge, comme on dit, d'un ovule de la Vierge Marie, le bon Dieu, tac, fait un clonage en rajoutant un chromosome pour un garçon. Et donc, on dit que Jésus ressemblait énormément à Marie, la finesse de son visage. Il a 99% de l'ADN de sa mère. Il a pas l'ADN d'un père. Mais son cousin, le fils d'une sœur de la Vierge Marie, lui ressemblait énormément. Et il a été évêque de Jérusalem, le premier évêque de Jérusalem, et les gens venaient le voir, parce que ceux qui n'avaient pas vu Jésus venaient voir Jacques, le mineur. Jésus avec un visage très ressemblant. Et là, la Vierge Marie part. Elle dit à Joseph, j'ai su que ma cousine est enceinte. Je vais aller l'aider. Elle fait 100 km, elle part de Nazareth jusqu'à Jérusalem, et près de Jérusalem. Et là, quand elle arrive, vous avez Élisabeth qui est là, elle voit Marie. Marie salue Élisabeth, et la voix de la Vierge Marie arrive jusqu'à Élisabeth, et le petit enfant promis à Zacharie bouge dans le ventre d'Élisabeth. Mais il ne donne pas des coups de pied, il tressaille de joie. Et là, Élisabeth dit, que me vaut l'honneur d'avoir la visite de mon Seigneur, de la mère de mon Seigneur. De la mère de mon Seigneur. Quel Seigneur? C'est sa petite cousine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle dit, la mère de mon Seigneur. Car mon enfant a tressailli en mon ventre. Heureuse celle qui a cru les paroles qui lui ont été dites par le Seigneur. Et là, la Vierge Marie chante le Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur en Dieu notre Sauveur. Car il a exaucé l'attente du peuple d'Israël. Il a envoyé son Messie. Il a envoyé le Sauveur. Et mon nom restera de génération en génération pour manifester l'amour et la miséricorde de Dieu. Comment voulez-vous qu'une juive de 16 ans puisse avoir la prétention de dire cette prière, le Magnificat, et qu'actuellement, dans tous les pays du monde, on ait entendu parler de cette femme? La coïncidence et la réussite humaine hasardeuse est quand même remarquable. Si c'est pas Dieu qui a fait ça. Alors, elle s'occupe d'Élisabeth. Le petit bébé va naître 3 mois plus tard. Et là, on va le circoncire. Zacharie est là. La maman Élisabeth est là. Et on dit, donne son nom. Et Élisabeth dit, parce qu'il est muet toujours, hein, l'autre. Jean sera son nom. Alors on se retourne vers le père et dit, c'est pas la tradition. Ben Zachary si tu veux, Zachary Junior si tu veux, et pas Jean, Jean, c'est quand même très joli Jean, c'est quelque chose comme la grâce de Dieu, enfin don de Dieu. Et donc, il dit, alors on lui donne une tablette et un stylet, Jean est son nom. Et là, il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a fait miséricorde à son peuple, et toi, petit enfant, tu seras le prophète du Très-Haut, et tu annonceras, et tu ouvriras le chemin au Sauveur. Et les gens qui ne l'avaient pas entendu depuis 9 mois, quel sera cette petite enfant? Alors Jean-Baptiste, enfin Jean, le petit Jean, à 3 ans, il part au désert pour prier. Et on ne le revoit plus. Alors on sait grosso modo où il est, mais on ira le voir parce que c'est un ermite qui prie. C'est un prêtre, hein, il est fils d'un prêtre. Jean le Baptiste. La Vierge Marie revient. 3 mois, ça commence à se voir. Hein. Et donc au village de Nazareth, c'est bien... Mais il n'y a pas eu la deuxième partie du mariage, c'est-à-dire que la fiancée entre dans la maison du fiancé. Vous voyez ? Donc Joseph est un peu troublé. Alors elle met des amples habits, n'est-ce pas ? Mais Joseph sait qu'elle est enceinte et il est très troublé. Et le soir, il est là, il fait je vais la répudier, je vais rompre le mariage. Mais comme la première étape du mariage est engageante, elle pourrait être lapidée hein, si on suivait encore la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse s'est distendue depuis les siècles. Et on ne lapidait plus les femmes adultères. Et on ne pratiquait quasiment plus la polygamie qui avait été autorisée par Moïse. Mais la répudiation, on la pratiquait encore. Il s'endort, et là vous avez l'archange Gabriel qui lui apparaît en songe, pas éveillé, et qui lui dit « Prends ton épouse, l'être saint qui est né en elle sera le sauveur. » Et donc, voilà donc que le lendemain il se réveille, et il fait un acte de confiance, et il reçoit la Vierge Marie dans sa maison. Les mois passent et vous avez l'occupant romain, César Auguste, qui veut plus d'impôts et donc qui va faire un recensement dans toutes les colonies romaines pour pouvoir savoir quelle famille va donner l'impôt, quelle personne va donner l'impôt. Parmi les juifs, il y avait ceux qui avaient collaboré avec l'occupant, qu'on appelait les publicains, et qui avaient comme spécialisation de lever l'impôt, étaient particulièrement détestés comme des collaborateurs. Enfin, l'Empire romain, si vous voulez, si vous ne vous révoltiez pas, ça se passait bien, c'était la Pax Romana. Mais à l'époque, il y avait des petites révoltes parce que le peuple juif voulait retrouver son roi. Bon. Mais la tribu de la famille de David s'était dispersée et la plupart des descendants royaux étaient devenus des agriculteurs ou un charpentier, comme Joseph, qui était de sang royal, mais qui était, avec les défaites militaires, avec tout ça, les familles royales étaient complètement dispersées. Joseph était de la famille de David. Hein. Mais comme il y a le recensement, on est recensé dans la ville de ses ancêtres. Du coup, il va dans la ville, il sait qu'il est de famille royale. Même si la famille royale n'est plus beaucoup honorée et n'a plus d'argent, il descend à Bethléem avec sa femme, qui est presque à terme. Donc la Vierge Marie est montée sur un âne, parce qu'elle ne peut plus marcher. Et il descend jusqu'à Bethléem. Et arrivé à Bethléem, il y a les familles, ben, ils sont tous plus ou moins de la famille du roi David, toute une partie de la ville. Donc il n'y a pas, c'est pas des, bon, c'est des cousins, mais bon, voilà. Non, on n'a pas de place. Donc ils vont à l'auberge, il n'y a pas de place. De toute façon, parce que vous avez des centaines de personnes qui reviennent, des milliers, voire des milliers, pour être recensées par les officiers romains et par les publicains. Donc Joseph est quand même troublé. Ils sont là, ils ont dans leur tête l'annonce de l'ange, et rien ne s'ouvre devant eux. Il n'y a pas de surnaturel merveilleux autour d'eux. Hein. Du coup, il va dans la campagne et il trouve une grotte. C'est pas une habitation, hein, c'est une grotte. C'est creusé dans la pierre, ou une grotte naturelle, où des animaux étaient disposés. Il y avait une étable avec des mangeoires. Donc Joseph fait ce qu'il peut pour balayer, pour mais la Vierge Marie, il fait un lit en paille. Enfin voilà, il est un peu perdu, quoi. Enfin, il faut s'imaginer quand même. Hein. Ça, vous avez votre femme enceinte et vous entrez dans une étable. Hein. Donc ils attendent. Au même moment, vous avez un ange dont on ne sait pas qui c'est. Ça doit être Gabriel probablement, puisqu'il conduit. Il a cette mission là. Il apparaît à des bergers qui sont, s'occupent de troupeaux. Alors, c'est un être, il apparaît sous forme humaine, de manière assez lumineuse, et en l'air. Donc là, ils se rappellent de leur catéchisme, ils leur disent, c'est possible. On nous a dit que les anges étaient apparus à nos ancêtres. Hein. Donc ils voient l'ange. En général, on a peur de mourir. Les anges nous annoncent parfois le moment où on va mourir. Donc, ils sont là. Et il leur dit, « Je vous annonce une grande nouvelle. Le Messie Sauveur est né. Allez l'adorer. Vous le reconnaîtrez, ça sera un petit bébé emmailloté. » Et là, les bergers écoutent ça. Si vous voulez, ce sont des juifs, hein, donc ils attendaient ce moment, mais ce sont des bergers, ils sont là, bon, un ange leur annonce. Et là, l'ange a terminé, et vous avez des milliers d'anges qui se rendent visibles. Alors imaginez, le spectacle a dû être impressionnant pour ces bergers. Et là, ils disent à grande voix, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix pour les hommes qu'il aime. » Dieu qui aime les hommes, hein. C'est pas paix aux hommes de bonne volonté en fait, hein. C'est une traduction qui s'est croisée. Ils sont là, l'apparition disparaît, et qu'est-ce qu'on fait? Alors ils partent, et ils cherchent. 2 ans avant, vous avez trois rois de petites villes, très érudits, étudiant les sciences, l'histoire, la géographie, l'astronomie, qui se réunissent, ayant étudié les écritures du peuple juif et les prophéties de ce petit peuple. étant persuadés que c'est eux qui détiennent la clé de la prophétie d'Adam, du Sauveur. Leurs trois caravanes se rassemblent et ils suivent une étoile qui est apparue dans le ciel et qui n'est pas une étoile filante, mais qui est une étoile qui se déplace. Et donc, ils la suivent avec leur connaissance de l'époque. Marie enfante, et donc vous avez des mystiques comme la bienheureuse Anne-Catherine Emig, qui est morte en 1823, qui a comme vision la naissance de l'enfant Jésus. Toute une partie de l'évangile. Vous avez Maria Valtorta qui aurait eu des visions identiques, et vous avez aussi Anne-Catherine Emig, Maria Valtorta et une autre. Thérèse Newman n'a pas eu des visions, je ne sais plus. En tout cas, la bienheureuse Anne-Catherine Emig a été béatifiée par Jean-Paul II, Benoît XVI. Et donc, l'enfant Jésus, lui, sort de la Vierge Marie comme il rentrera, si vous voulez, dans la salle des apôtres le jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il traverse le ventre de la Vierge Marie. La Vierge Marie n'enfante pas dans la souffrance. Et du coup, son hymen n'est pas déchiré. Et donc, c'est la raison pour laquelle on représente la Vierge Marie avec trois étoiles en Orient. Elle est vierge avant l'enfantement, pendant l'enfantement et après l'enfantement. Ça vaut bien la peine, si vous voulez, que le Fils de Dieu, le Verbe, voyez, naisse d'une manière miraculeuse pour laisser intact un corps humain qui ne vieillit pas, qui ne se déchire pas, dont les tissus ne s'abîment pas. Voyez. Ce n'est pas que l'acte sexuel soit impur ou mauvais, mais c'est pour signifier d'abord qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est au-dessus du corps humain et de la matière, et en même temps pour honorer le corps humain qui doit être dans sa plénitude. Et Joseph place le bébé dans la mangeoire et les bergers arrivent. Et les bergers disent à Marie et à Joseph, on a vu des anges qui nous l'ont annoncé. Alors, ensuite, il y a une petite querelle de commentaires, d'exégèse, mais au même moment, je prends cette version plus classique, les rois mages arrivent à Jérusalem et disent « Nous voulons voir le Messie du peuple juif. » Et vous avez le roi Hérode qui est là, qui dit « Ben, c'est pas moi. » Il fait venir les prêtres, les scribes, qui apprenaient à écrire et donc étaient les savants, les docteurs de la loi, et il dit « Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Eh bien, le Messie, c'est des temps messianiques, et il naîtra à Bethléem. Car vous avez le prophète Malachie qui dit « Et toi, Bethléem de Juda, tu ne seras pas la plus petite des bourgades de la tribu. » Alors, donc, il va... Hérode leur dit « Allez à Bethléem, et quand vous aurez trouvé l'enfant, dites-le-moi et je viendrai le vénérer. » Puisque c'est le roi des Juifs. Lui est roi des Juifs, mais par l'occupant romain. Hein, donc je m'occuperai de lui pour qu'il prenne mon trône, certainement. Voilà. Et donc, les rois mages suivent à nouveau l'étoile qui s'était éclipsée, et vont à Bethléem. Et pourquoi on dit qu'ils sont trois? Parce que les rois mages, dans l'évangile de saint Matthieu, offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, parce que Jésus a toute autorité et la puissance de l'or, pour l'être humain, c'est la richesse et le pouvoir. On ne fait de guerre que si on paye ses soldats. L'encens, parce qu'il est Dieu, et la myrrhe, parce que c'est une plante aromatique qu'on mélange à de la pommade pour embaumer les morts. Donc c'est un homme. Allez. Ensuite, un ange leur parle en songe, comme pour Joseph, la nuit, et leur dit « Ne retournez pas voir Hérode, et partez par un autre chemin. » Et quand Hérode, au bout de quelques jours, comprend que les mages lui ont pas obéi, il envoie son armée à Bethléem. Mais c'est au bout de plusieurs semaines, parce qu'entre-temps, Marie et Joseph, au bout de 48 jours, vont faire circoncire l'enfant et lui donner le nom de Jésus que l'archange avait donné. Et ensuite, ils vont au temple, au bout du 40e jour, à Jérusalem. Ils ne sont pas encore partis en Égypte. Et là, vous avez un saint homme qui est Siméon. Alors parfois, on en fait un prêtre, voire le grand prêtre du temple de Jérusalem. Normalement, c'est un saint homme qui était au temple. Hein. Et vous avez, lui, Dieu lui avait dit, mais Dieu, dans la Sainte Écriture, s'est dit, l'Esprit Saint lui avait dit. L'Esprit Saint lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant de voir, pardon, le Messie. Donc lui, il a 80 et quelques, 85, et il détient ce secret, il voit tous ses compatriotes et tout, il dit, je ne vais pas mourir avant qu'il arrive. Donc il est heureux parce qu'il se dit, les temps messianiques sont là. Et vous avez une sainte femme qui était prophétesse, dans le sens où elle était, comment dire, elle priait, elle était tout le temps au temple, et elle avait été mariée. Et au bout de 7 ans, son mari était mort. Elle ne s'était pas remariée. Elle était restée au temple. Et elle avait 90 ans. Vous avez Marie et Joseph qui arrivent. Pour racheter le premier enfant mâle, on doit apporter un mouton. Et si on ne peut pas apporter un mouton, un agneau, on doit apporter 2 colombes. C'est moins cher. Or, Joseph était un artisan, donc c'était un charpentier, mais qui n'avait pas assez d'argent pour s'acheter facilement un mouton entier. Et lui, ils auraient pu prendre l'or des mages, enfin voilà. Mais c'est pour ça qu'on se dispute pour savoir si les mages sont venus plus tard. Hein. Voilà. Et donc, ils présentent l'enfant, et vous avez Siméon qui va vers le couple, qui demande la permission de prendre l'enfant. On n'est pas au surnaturel près, hein, donc Marie laisse le bébé à Zacharie, à Siméon. Mais je vous, si vous voulez, eux, ils ont le Fils de Dieu avec eux, hein, quand même. Hein, donc ils sont dans la contemplation, hein, tout en étant dans le réel. Hein. Et là, vous avez Siméon qui prend l'enfant et qui dit « Seigneur, maintenant je peux partir en paix. Je peux mourir. Car j'ai vu de mes yeux la gloire d'Israël et la lumière pour toutes les nations. » Qu'est-ce qu'il raconte ? Jaloux comme ils sont de leur religion, ils disent ça va être toutes les nations vont reconnaître ce petit bébé qui est né à Bethléem, qui vient de Nazareth, un bled perdu. Il rend l'enfant. Et vous avez Anne qui est derrière, là, et qui dit « C'est le Messie, c'est le Messie, c'est le Messie. » Et ils repartent. Et là, l'ange apparaît en songe à nouveau à Saint-Joseph et lui dit « Tu pars. Hérode veut le tuer. » Il se réveille, il dit à Marie « On part. » Il met Marie sur l'âne, l'enfant, et ils partent en Égypte. Et là, vous avez Hérode qui, quelques temps plus tard, envoie son armée et il tue tous les enfants de 0 à 2 ans, suivant l'arrivée des mages. nous sommes partis depuis 2 ans. Alors il dit, il est peut-être né il y a 2 ans, donc il fait tuer tous les bébés de 0 à 2 ans. Et donc, au bout de quelques temps, Hérode meurt, et l'ange, à nouveau en songe, dit à Joseph, vous pouvez revenir. Et ils repartent à Nazareth. Et là, l'enfant est très gentil et très docile, avec son papa et sa maman. À l'âge de 12 ans, Jésus devient un homme. C'est la bar mitzvah, c'est le, comment dire, l'âge où on peut lire la Sainte Écriture dans la synagogue. Donc il lit la Sainte Écriture dans la synagogue de Nazareth, mais ils vont au pèlerinage annuel de la Pâque. Ils sont observants, hein, Marie et Joseph sont observants. Et le petit enfant Jésus, qui a 12 ans, est avec les femmes. La bar mitzvah a eu plus particulièrement lieu peut-être à Jérusalem, parce qu'il va y avoir un quiproquo. Ils vont à Jérusalem, on sacrifie l'agneau pascal, on le mange, on est content, avec tout le pèlerinage venant de Nazareth, et les familles, et tout. Et on repart. Et quand on arrive au bivouac, Joseph a marché et Jésus n'était pas avec lui, mais il est encore avec les femmes. Et Marie, Jésus dit, il est maintenant avec les hommes. Donc, arrivé à la halte du soir, l'enfant Jésus n'est pas là. Il a 12 ans, hein, 12 ans, c'est pas un petit garçon, c'est pas un mini-garçon. Hein. Donc, ils sont paniqués. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pas possible, il n'a pas pu se perdre comme ça à 12 ans. Donc, ils repartent à Jérusalem le plus vite possible et ils cherchent dans la ville. Pendant 3 jours. Et vendredi saint, samedi saint, matin de Pâques. Donc, c'est une grande souffrance hein, pour eux. Hein. En plus, ils sont dépositaires du Messie, ils sont dépositaires du Fils de Dieu. Donc, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent vraiment pas. Et à un moment donné, alors qu'ils cherchaient depuis 3 jours, ils arrivent à nouveau dans le temple, ne serait-ce que pour supplier le bon Dieu, et ils voient Jésus en train de parler à des prêtres, à des scribes, à des docteurs de la loi. Il s'approche, il est en train de leur poser des questions, il pose des questions et il répond. Et alors, donc, les exégètes progressistes, modernes, de nos jours, vont vous dire que Jésus ne savait pas qu'il était Dieu. Il n'était pas conscient, vous savez. L'incarnation, ça signifie que l'âme de Jésus, comme homme, est face à face avec la divinité. Il a une nature humaine complète, il a une âme et un corps, et il a l'esprit divin. Et la personne de Jésus est dans l'esprit divin, si vous voulez. C'est l'esprit divin qui est la personnalité de Jésus. Mais il a sa vie humaine. Et donc il éclaire son âme humaine de toute sa science, de toutes ses connaissances du passé, du présent et du futur. C'est comme ça que Dieu donne des prophéties. Les démons ne connaissent pas l'avenir. Les sorciers, les sorcières, les spirites, les chiromanciens peuvent invoquer des esprits, invoquer des âmes de mort, mais ils ne peuvent connaître que le passé. Vous voulez faire invoquer l'esprit de votre grand-mère, vous avez une chiromancienne qui est là, qui se met par terre, et qui, vous avez une sorte d'ectoplasme qui sort de sa bouche, mais ça c'est démoniaque. Et vous avez de la chance, vous avez donné 500 euros pour quelque chose. Parce que si vous avez la bonne femme ou le bonhomme qui est un escroc, il n'y aura pas d'apparition, mais il fera... C'est pas vraiment la voix de ma grand-mère, mais bon, voilà. Mais par contre, vous avez de vrais spirites, c'est un démon qui contrefait, voire l'apparence de votre grand-mère, la voix de votre grand-mère, mais avec toute la vie de votre grand-mère, parce que les esprits assistent à nos vies. Mais c'est sûrement pas l'âme de votre grand-mère qui vous parle. Et éventuellement, des damnés peuvent, être suscités par des sorciers ou des sorcières pour parler. Mais là, ce sont des vrais sorciers, des vraies sorcières. Alors là, je vous conseille vraiment pas d'entrer en contact avec ces personnes-là. Mais par contre, voyez-vous, aucune de ces personnes qui parfois reçoivent des pactes de personnes, d'hommes politiques ou d'artistes, ne connaissent là le futur. Même pas le tiercé. Le loto, c'est peut-être qu'il y a trop de numéros. Même pas Betclic ou Winamax. On ne peut même pas savoir quelle équipe va gagner. Donc ne dépensez jamais un centime avec ces gens-là. Ils ne savent rien du tout de votre futur. Eh bien, voyez-vous, Marie et Joseph sont là, ils disent, mais Marie prend la parole, hein, et dit, pourquoi tu nous as fait ça? Ton père et moi, nous étions dans l'angoisse. Et là, Jésus se tourne vers son papa et sa maman et dit, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Et là, vous avez Joseph qui, son statut de père adoptif lui est renvoyé en plein visage, hein, mais ils ne comprirent pas. Jésus les rejoignit et il leur était soumis. Il a fait simplement une petite fugue de 3 jours. Et Marie méditait ces choses dans son cœur. Cette phrase avait été aussi écrite par l'évangéliste lors de l'arrivée des bergers. Et Marie méditait tout ce que les bergers avaient dit dans son cœur. Jésus ne fera que ce petit miracle. Oh, c'est un petit miracle, il connaît la Bible par cœur. Et il sait l'interpréter parfaitement. À 12 ans. Ne serait-il pas celui qui l'a dicté aux prophètes et aux écrivains sacrés? C'est peut-être la cause de sa science. Et il retourne à Nazareth. Eh bien, il ne va pas aller au Tibet. Il ne va pas aller voir les Esséniens. Il va rester tranquillement à Nazareth. Alors, il y a pu y avoir quand même, puisqu'il y va arriver jusqu'à l'âge de 30 ans, des rencontres avec des personnes qui sont venues le voir ou autre. Mais sinon, Jésus ne fera aucun miracle jusqu'à l'âge de 30 ans. Là, vous avez la mort de Joseph, qui meurt avec Jésus et Marie à ses côtés. Donc, on peut pas... Mais il meurt quand même. Imaginez la peine de Jésus de voir son père adoptif mourir. C'est-à-dire avoir la loi ordinaire de l'humanité et à cause du péché originel. Marie, elle, ne mourra pas. Enfin, il y a deux traditions. Certains disent que son âme est sortie de son corps et est revenue dans son corps. Et son corps ne s'est pas décomposé. Elle est entrée dans la gloire divine, portée par les anges. Mais moi, je suis de la tradition qui dit qu'elle s'est endormie. On l'a considérée comme morte, on l'a portée au tombeau. Et alors qu'on repartait, les anges ont porté le corps de Marie vivante, animée, enfin consciente. Et alors la petite tradition dit que la ceinture de Marie, comment dire, est tombée sur Thomas, hein, sur saint Thomas, l'apôtre. Et donc, saint Thomas l'a rattrapé. Mais sinon, Joseph meurt. Alors il est enterré, et comme vous savez peut-être qu'il y a des saints et des saintes qui ne se sont pas décomposés, et dans des situations qui ne sont pas naturelles, de terre particulière, de sécheresse particulière ou autre. Vous voyez, vous avez un moine bouddhiste qui a été retrouvé quasiment intact, mais enfin il était dans un pot, tout ça, il n'y avait pas d'oxygène, tout ça, c'était des circonstances particulières. Tandis que les saints et les saintes chrétiens qui ne se décomposent pas, ne se décomposent pas la plupart du temps dans des circonstances de décomposition. Saint François Xavier ne s'est pas décomposé. Et en Inde, il fait très très chaud, très humide. Vous voyez. Sainte Bernadette, elle, on a retrouvé son chapelet mangé par l'humidité. Son habit était imprégné d'humidité. Elle était morte avec une phtisie. Hein, donc, vous aviez des microbes dans tous ses poumons, à plus savoir qu'en faire. On l'a retrouvée intacte avec les membres souples. C'est un des exemples les plus extraordinaires d'incorruption de corps de saint, Sainte Bernadette de Lourdes. Il y a un protestant qui a fait un livre, et dans son livre, il dit « Force est de constater que c'est un des plus grands miracles de l'histoire. » Parce que scientifiquement, c'est strictement impossible. La plupart du temps, si vous voulez, au moins, quand un corps ne se décompose pas, il est sec. Mais qu'il soit souple, alors là, c'est le summum. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était d'une très grande sainteté, elle s'est décomposée. Et donc, Joseph meurt. Alors Jésus, lui, va partir au désert et va rester pendant 40 jours sans boire ni manger. Il commence sa mission. Son père adoptif est mort, maintenant il va révéler son vrai père. Et là, nous sommes au mercredi des cendres, et je vais bientôt arrêter. Jésus, donc, va, prier, comme Moïse, et au bout de ces 40 jours, Lucifer lui apparaît. Un vieil ami. Et là, il est là face à Jésus, qui est un homme de 30 ans. Si tu es le Fils de Dieu, que ces pierres deviennent du pain, puisque tu as faim. Et Jésus lui répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Là, il le porte sur le haut du temple. Et il lui dit, Dieu, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple, qui faisait 40 mètres de haut, et miraculeusement, les anges te porteront. Et là, Jésus lui répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire que tu ne mettras pas à l'épreuve, tu ne demanderas pas un miracle maintenant. Voilà. Et là, Lucifer transporte à nouveau, il prend le corps du Christ, et le Christ se laisse faire par Lucifer. Comme le Padre Pio a été frappé, comme le Saint Curé d'Ars a été frappé par des esprits. Et là, il le met sur une montagne, le haut d'une montagne, et Lucifer fait une illusion de toutes les villes du monde. Jésus, ça lui fait pas plus. Bon. Et lui dit, voici tous les royaumes de la terre, ils m'ont été donnés. Impressionnant, hein? Ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Si tu t'inclines devant moi et tu m'adores, je te les donnerai. Et là, Jésus rigole moins. Mais arrière Satan, il lui dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Arrière. Et là, Satan s'en va. Il dit, cet homme a résisté, parce que c'est extrêmement surnaturel la manière dont tu lui présentes. Et à l'occasion, je pourrais vous parler de la franc-maçonnerie. Voyez-vous, la franc-maçonnerie est liée à la sorcellerie babylonienne et égyptienne. Si vous avez des amis francs-maçons, vous leur dites, il y a des rites égyptiens, il y a des machins égyptiens. En effet, il y a ces termes égyptiens chez eux. Mais d'où ça vient? Et ils ont le temple de Salomon. D'où ça vient? Eh bien, c'est la sorcellerie kabbalistique. Et les juifs pieux n'aiment pas beaucoup la kabbale et le zohar. Et eux en usent parce que leurs fondateurs ont la haine de Jésus et donc de l'Église. Mais ils font ça, c'est de la philosophie. Mais vous tombez dans l'ésotérisme. Jésus va vers le Jourdain, où il y a Jean qui a pété les plombs. On s'arrête là, bientôt. Il est 21h35. Et là, Jean est là. Faites pénitence, vous allez tous mourir, vous allez tous damner si vous ne faites pas pénitence. Sauvez-vous, faites pénitence, convertissez-vous, sinon vous allez mourir, vous allez crever de haine. Alors vous avez des prostituées, des soldats qui viennent, qui demandent pardon d'avoir pillé, tué, violé. Et là, il les prend et il les plonge dans le fleuve, sur le bord du fleuve. Voilà, maintenant tu es purifié, ne pêche plus. Hirsute avec sa peau de chameau, vous vous rendez compte, hein? Il a bouffé des sauterelles et du miel depuis l'âge de 3 ans. Hein. Il a des carences alimentaires, hein, sûrement. Et donc il est là, il hurle, il crie. Et puis quand vous avez des juifs, des pharisiens très observants, des zélotes anti-romains, des docteurs de la loi, des prêtres qui arrivent, des gens très installés, engeance de vipères, qui vous a appris à éviter la colère qui vient? Faites pénitence! Et là, vous avez Jésus qui arrive. Et Jean-Baptiste, lui, est pas si caricatural que ça. Il a déjà 4 disciples. Il a Jean l'évangéliste, hein, Jean, qui a 20 ans. Il a son frère, son frère Jacques. Il y a André et Simon, qui s'appellera Pierre. Et on lui dit: mais tu es extraordinaire, ta prière, ta prédication, mais est-ce que tu serais le Messie? Non, je ne suis pas le Messie. Est-ce que tu es le prophète Élie qui doit revenir? Non plus. Alors qui es-tu? Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins, rendez droits les sentiers tortueux. Préparez-vous. Il vient, celui qui doit venir, et il battra l'air, n'est-ce pas? Donc vous avez une aire, vous mettez le blé, et avec un bâton noué avec un cuir à un autre bâton, vous, avec le vent, vous frappez pour que les grains sortent des épis. Il va purifier les fils de Lévi comme l'or au creuset. Bon, très bien, très bien. Et là, vous avez Jésus qui arrive. Et Jésus lui dit: baptise-moi, plonge-moi. Baptiser, c'est plonger dans l'eau. Et là, Jean, le baptiste, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais plutôt à toi de me baptiser. Parce que là, Dieu lui dit: c'est le Saint des Saints. Et là, Jésus lui dit: non, c'est à toi de le faire, car on doit accomplir toute justice. C'est-à-dire que mais ça signifie de mourir, hein, d'être baptisé. Hein. Donc Jean le Baptiste, prêtre, sacrifie le Christ de manière mystique à ce moment-là. C'est l'humanité qui meurt. Adam qui devait mourir, Ève qui devait mourir. C'est un grand moment, hein. Je passe vite, hein, pour qu'on arrive au mariage. Et il le plonge dans l'eau. Et quand il sort de l'eau, vous avez les nuages qui s'écartent. Vous avez une colombe qui plane au-dessus du Christ et la voix du mont Sinaï. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et là, vous avez des gens qui entendent cette voix de manière diffuse. Mais Jean le Baptiste, lui, il comprend les mots exacts. Et Jésus va partir. Et les disciples de Jean disent: qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Et là, vous allez être content. Je suis l'ami de l'époux. Et quand l'époux vient, l'ami de l'époux se réjouit. Et il laisse la place à l'époux. C'est absolument impressionnant parce que, voyez-vous, à bouffer des sauterelles et du miel sauvage, pourtant, il dit, le Messie, c'est l'époux de l'humanité. Donc il avait de belles prières et de belles contemplations. Je suis l'ami de l'époux, et quand il entend la voix de l'époux, il se réjouit. Et du coup, il donne ses disciples au Christ. Alors comme il engueule comme du poisson pourri Hérode le Petit, hein, Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, parce qu'il il a épousé la femme de son frère, eh bien, il est mis en prison. Et là, les apôtres, ses disciples disent, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Dites-lui, est-ce que c'est lui qui doit venir? Alors les disciples vont voir Jésus et disent, est-ce que c'est vous qui devez venir? Et Jésus a dit, venez avec moi. Et là, il prie. Et parmi les disciples de Jean-Baptiste, il y avait Nathanaël, qui était en train de prier sous un arbre, sous le figuier. Ça veut dire que c'était la méditation de la Sainte Écriture, être sous le figuier. C'est une expression de pharisien. Et ils vont voir Jésus. Et Nathanaël est en train de marcher, on dit, il vient de Nazareth. Et l'autre dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Enfin, c'est un village du nord de la Galilée, enfin c'est quoi? Et là, quand il arrive devant Jésus, Jésus le regarde et lui dit, ah, voilà un véritable Israélite en qui il n'y a pas de mensonge. Et là, Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, on ne sait pas, on attendra le jugement dernier pour savoir pourquoi Nathanaël dit, mon Seigneur et mon Dieu. Enfin non, il lui dit, tu es le Messie, le Sauveur d'Israël. Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël dit, vous êtes le Messie. Alors que ça va prendre 3 ans hein, pour que Jésus fasse les miracles et enseigne ses apôtres. Alors, probablement, il a eu une vision comme Ézéchiel. Enfin, il a eu une vision d'un homme dans la gloire. Enfin, en tout cas, de tout de suite faire le rapport entre le Messie et le fait que Jésus lui dise qu'il l'a vu, ça veut dire qu'il a eu une vision, probablement. Nathanaël a eu une vision, très probablement. Enfin, en tout cas, il part avec ses apôtres et, ils sont invités à un mariage. Saint Jean-Baptiste est décapité. Les disciples de Jean-Baptiste deviennent les disciples de Jésus et il est invité à un mariage. Ils vont au repas de mariage. Marie était là, sa maman, à Cana, en Galilée. Et imaginez, vous avez le banquet, vous avez les mariés, les invités, la famille, un mariage. Et Jésus est sur le côté, comme un saint homme invité. Un début de prophète, hein, quand même. Hein, avec ses disciples qui sont là. Et Marie, qui est à côté de son fils. La sainte femme. Une belle renommée à Nazareth. Et là, ils boivent, ils mangent, et puis tout d'un coup, il n'y a plus que de l'eau. Et Marie se tourne vers son fils et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et là, Jésus dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi pour que tu bois? Vous rendez compte, il dit femme à sa mère, mais il ne dit pas femme, il dit la femme, Ève, vous voyez, femme. Ce n'est pas la première fois qu'il le dira. Hein. La deuxième fois, il est sur la croix, je crois. Femme, voici ton fils. C'est la femme. C'est extraordinaire, hein, c'est l'Ève. C'est la beauté de la vraie religion, hein, c'est que l'homme et la femme sont dans le salut, hein, pas que l'homme. Et là, la Vierge Marie se tourne vers les serviteurs et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il ne lui a pas dit oui, Il ne lui a pas dit non. Et Marie insiste auprès des serviteurs. Et là, Jésus leur dit, allez puiser de l'eau et portez-en au maître du festin, au maître d'hôtel, à l'organisateur du repas. Donc ils partent avec des jarres, ils puisent dans les réservoirs d'eau qui étaient utilisés par les Juifs pour se laver, tout ça, avant 5 fois par jour. Hein. Et donc, et eux, dans une cuve, enfin dans une amphore, ils voient que le liquide devient rouge. Hein. Or, à l'époque, le vin, c'est de la pâte, hein, c'est du gros Porto, hein, c'est du martini épais. Hein. On met toujours de l'eau. Parce que pour transporter du vin, il tourne, et il devient du vinaigre. Donc il faut qu'il soit pâteux et sucré. Donc là, il porte ce vin qui est très liquide. Enfin, cette eau, eux, ils ne comprennent pas que ça soit devenu rouge. Hein. Ils le portent au maître du festin, qui prend une coupe, qui boit, qui est étonné de cet arrivage de vin, puisque tout était épuisé. Hein. Imaginez le vin créé directement par Dieu. Vous avez des atomes de H2O, et vous avez de la silice, du carbone, du machin, enfin du vin. Quoi. Création de matière. Hein. C'est aussi puissant que de ressusciter un mort, hein, de créer de la matière. Et là, le maître du festin, il se tourne vers le couple. Du Romanée Conti à côté, c'est de l'eau, quoi. Il fait, d'habitude, on sert le bon vin au début du repas. Et quand les gens ont la langue chargée et qu'ils ne savent plus reconnaître un cornichon d'une tranche de jambon, on sert la piquette. Et vous avez gardé le meilleur vin pour la fin. Et là, les disciples crurent en Jésus parce qu'ils ont vu le manège et ils ont vu que Jésus a transformé de l'eau en vin. Et il fit son premier miracle. Son premier miracle à Cana, en Galilée. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce miracle? C'est la bénédiction du mariage, déjà. Et c'est la signification que ce mariage, c'est son mariage avec l'humanité. Parce que la louange qui a été faite par le maître du festin à ce couple ne s'adresse pas à ce couple, mais s'adresse au vrai fiancé, au véritable époux qu'est Jésus. Et le meilleur vin, c'est quoi? Après tout l'Ancien Testament, et toute cette dureté, vient l'épanouissement de l'amour et la bonne nouvelle des béatitudes. La douceur, le fait de ne pas faire la guerre, mais plutôt d'être tué, d'être innocent. Alors que le roi David, lui, il rendait coup pour coup. Et Marie est là. Et elle a été désignée comme la nouvelle Ève, donc comme l'épouse. Donc imaginez l'importance pour le christianisme du mariage et de sa signification. Voilà. C'est pour ça que toutes les autres séances de Psychologie Magazine, je le voulais frais. Mais si j'ai voulu vous faire un historique religieux, c'est parce que ce que vous allez faire est mystique. Et c'est la raison pour laquelle le divorce n'est pas permis. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une crise religieuse terrible. De prière, de pratique de la messe du dimanche et de divorce. Mais au moins, moi, je vous aurais averti que tout ça, c'est pas bien. Voilà.